France Musique. Musicopolis.
Avril 1849, Paris. L'histoire de la Société des concerts du Conservatoire impérial de musique, ouvrage d'Antoine Amable Elie Elvart, signale que le 22 avril 1849 a eu lieu à 2 heures précises le 8e concert de la saison. Au programme, 1. Symphonie de Madame Farinck, 2. Fragment des ruines d'Athènes de Beethoven, 3. Air de Mozart, 4. Symphonie en ut mineur de Beethoven. L'auteur, qui écrit son histoire en 1860, nous donne une information supplémentaire sur la symphonie de Madame Farinck. Écrite avec une grande pureté de style, cette symphonie, qui depuis sa création a été souvent exécutée au concert du Conservatoire de Bruxelles sous la direction de Monsieur Fétis, fut très appréciée des artistes et de cette partie du public qui juge une œuvre nouvelle sur son mérite intrinsèque et non pas sur le nom, plus ou moins célèbre, de l'auteur qui l'a signé. Ces dernières années, la compositrice Louise Farinck a fait entendre 2 autres ouvrages du même genre. C'est déjà sa 3e symphonie, son opus 36. Les 2 symphonies précédentes de Louise Farinck ont été données à Paris en 1845 et 1846. Et le public a déjà pu entendre également ses œuvres de musique de chambre, 2 quintettes et 2 trios, qui sont des exemples rares de ce genre en France, à cette époque où l'on apprécie plutôt les opéras et le lyrique en général. Si le nom de Louise Farinck revient régulièrement dans les journaux musicaux et qu'elle s'est faite une petite notoriété dans le paysage musical parisien, elle a néanmoins à lutter contre 2 facteurs défavorables, sa réserve et son sexe. Le chroniqueur de la France musicale relate le concert du 22 avril 1849. Si l'on en croit le premier paragraphe de son article, la Société des concerts du Conservatoire n'est pas une institution facile d'accès. Commençons, écrit-il, par remercier la Société des concerts de nous avoir fait entendre, dans cette séance, une œuvre nouvelle, une symphonie de Madame Farinck, savante musicienne, dont les compositions instrumentales sont justement estimées des amateurs sérieux. C'est là plus qu'une faveur, c'est un engagement d'encourager l'année prochaine tant d'autres artistes qui attendent impatiemment leur tour. Je me permets d'apporter une précision à ce petit paragraphe. En 1849 en France, ils ne sont pas légion à frapper à la porte pour faire jouer une symphonie. Peut-être Reybert, David, Lacombe ou Gouvy, dont les noms ne sont guère plus connus aujourd'hui que celui de Louise Farinck. Thank you. Le plus grand mérite de l'œuvre de Madame Farin, lit-on dans la France musicale, c'est une clarté parfaite et une habileté rare dans la distribution des diverses parties du discours musical. J'ai été étonnée, je l'avoue, de trouver dans cette œuvre parfaitement conçue une facture, un style de maître. La symphonie de Madame Farin peut être mise au rang des bonnes compositions instrumentales. Après avoir affirmé que la symphonie de Louise Farin est parfaitement conçue, qu'elle dénote une facture, un style de maître, le critique de la France musicale laisse apparaître juste un petit bémol. Après tout, c'est son rôle de critique. « Il est rare, écrit-il, de trouver chez les femmes autant de vigueur et d'intelligence dans la combinaison des effets. On aurait pu peut-être désirer un peu moins de réminiscence beethovienne dans les motifs, mais ne soyons pas trop exigeants. C'est déjà le témoignage d'un talent supérieur que le silence religieux avec lequel le public a écouté la nouvelle symphonie. Et les applaudissements qui ont suivi chacune de ces parties donneraient trop évidemment raison à Madame Farin contre moi si j'essayais de troubler par de trop minutieuses critiques la joie de son triomphe. Il n'y a qu'à s'incliner devant ce succès et à payer à la Société des concerts un juste tribut d'éloges pour avoir su, cette année, augmenter l'éclat de ses séances de compositions nouvelles et d'artistes nouveaux. Je disais un peu plus tôt que Louise Farin a eu à lutter pendant sa carrière contre deux facteurs défavorables, sa réserve et son sexe. Commençons par le deuxième facteur. Le fait qu'elle soit une femme l'a bien sûr desservie. Pas tellement à titre personnel, elle a rencontré de nombreux musiciens et artistes qui l'ont soutenue, mais d'une manière générale, parce qu'on ne reconnaît pas aux musiciennes à cette époque la possibilité d'être une créatrice. Du moins, en dehors de quelques genres comme les mélodies ou les petites pièces pour piano. Louise Farin a d'ailleurs débuté sa carrière comme pianiste et compositrice de pièces pour piano. Thank you. Louise Farinck est née Louise Dumont, dans une famille d'artistes, peintres ou sculpteurs depuis plusieurs générations. Ce qui a bien sûr influencé son avenir, sinon en raison de la génétique, du moins en raison de l'environnement artistique dans lequel elle a baigné. De tout temps, les familles de peintres ou de musiciens ont favorisé l'éducation de leurs filles. Et la jeune Louise a d'abord appris le dessin et la peinture, avant de se tourner vers la musique et le piano, grâce à une sienne marraine qui avait étudié avec Clementi. La jeune Louise Farinck, née Dumont, n'a pas suivi les cours de piano du conservatoire. Et pour ce qui est de l'harmonie et de la composition, les filles ne fréquentaient pas encore ces classes-là. Mais quoi qu'il en soit, à l'âge de 15 ans, en 1819, la jeune fille a décidé de prendre des cours avec Antoine Reika. Celui-ci, à Paris depuis plus de 10 ans, a acquis une solide réputation comme professeur et il a été nommé au conservatoire l'année précédente. Il sera le professeur de nombreux compositeurs, dont Berlioz. Louise s'est mariée à 17 ans avec Aristide Farinck, flûtiste et éditeur de musique. Aristide est certainement très admiratif du talent de sa jeune épouse et il ne perd pas une occasion de la soutenir, de l'encourager et bientôt d'éditer ses partitions. Elle est très timide et réservée et elle a bien besoin que son mari la pousse lorsqu'il s'agit de se présenter sur la place publique, que ce soit comme pianiste ou comme compositrice. Cette timidité en public est contrebalancée par un goût de l'enseignement. Du moins, on peut imaginer et espérer qu'elle en a eu le goût, puisqu'elle a été nommée professeure au conservatoire en 1842. Elle est la première femme depuis Hélène de Montgeroux à avoir un poste de première classe. Néanmoins, elle est un peu moins bien payée que ses collègues hommes et, malgré sa réserve, elle fait une démarche qui sera couronnée de succès auprès de la direction. « J'ose espérer, monsieur le directeur, que vous voudrez bien fixer mes honoraires au même taux que ceux de ces messieurs. » Car, mettant à part tout profit d'intérêt, si je ne recevais pas comme eux cet encouragement, on pourrait croire que je n'ai pas mis tout le zèle et l'assiduité nécessaires pour bien remplir la tâche qui m'était imposée. Lorsqu'on lit les articles publiés à propos de Louise Farinck à son époque, on est frappé des mots employés. Il est toujours question de sérieux, de respect des genres, de haute tenue. Évidemment, très loin des termes employés pour décrire ses collègues pianistes-compositeurs, qui en rajoutaient souvent dans le côté spectaculaire pour entraîner l'adhésion des foules. Par exemple, son collègue professeur au conservatoire, Antoine Marmontel, dit d'elle que c'est une pianiste de style, commandant l'attention par sa manière magistrale de comprendre et d'interpréter. Conviction, éducation ou tempérament, Madame Farinck se tient obstinément à l'antipode du sentimentalisme. À propos des symphonies de Louise Farinck, Henri Blanchard écrit dans la Revue et Gazette musicale « C'est sur le fer de Haydn et Mozart que Madame Farinck a modelé ses inspirations. Il y a donc dans ses œuvres un caractère classique, un travail sérieux, une empreinte honorable de conscience qui commande l'intérêt et le respect. » Dans la Revue et Gazette musicale, Henri Blanchard rend compte de l'audition du 22 avril 1849. La symphonie en sol mineur de Madame Farinck est un ouvrage bien pensé, bien écrit. Le premier morceau est d'une allure vive, animée et travaillé avec autant de méthode que de goût. L'adagio, du genre de ceux de Mozart, est d'un style noble, élevé, religieux et gracieux tout à la fois. Si les tournures mélodiques en sont d'une élégance un peu rétrospective, elles n'en plaisent pas moins. Nous avons écrit si souvent que le scherzo d'un trio, d'un quatuor, d'un quintet, d'un sextuor, etc. est pétillant de verve, d'esprit et d'originalité, que nous ne savons que dire de celui de la symphonie de Madame Farinck, si ce n'est qu'il mérite aussi ses éloges, que le thème est franc, que les pizzicati des violons y sont d'un effet pittoresque, quoique d'une difficile exécution. Le final de la symphonie de Madame Farinck, conclut la revue et Gazette musicale, se distingue plus par des beautés d'école, de style, de logique, que par l'imagination. Mais tel qu'il est, il couronne dignement l'œuvre de l'estimable compositeur qui, sans pédanterie scolastique, montre, seul de son sexe dans l'Europe musicale, un véritable savoir uni à la grâce et au goût. Finale de la 3e symphonie en sol mineur de Louise Farinck, l'orchestre philharmonique de la NDR de Hanovre, dirigé par Johannes Goritzky. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Delphine Baudet pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.